Voilà donc un premier élément important de réponse à ce qui nous a été objecté sur Madame, tout a été dit, je ne reviens pas. Mais il y avait un deuxième élément sur lequel je souhaitais revenir, c'était l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, puisque nous avions mis en avant des chiffres, et je vous redistribue pour mémoire, puisque mes chiffres ont été contestés, ces tableaux, quand vous les auriez égarés, je vous les redistribue parce que. Il a été fait, ça a été écrit, on a le texte écrit là, de l'intervention de Mme Bourdeau, où elle indique, alors il y a quelques petites bisbilles d'un ridicule, d'une mesquinerie pas possible, par exemple elle dit que ce n'est pas 14 maires qui ont signé, mais c'est 13 seulement. Alors j'ai eu l'occasion de dire que c'est 14 maires, dont 13 de la CCPL, le 14e étant le maire d'Aspin, un Lavedan, qui avait absolument tenu, bien que le président de l'Interco de Bathurgère soit présent, qui avait tenu à signer personnellement. Donc, c'est bien 14 maires qui ont signé l'amendement que j'ai déposé. Je vous ai donné les éléments et la copie des signatures. Alors, des petites mesquineries de cette affaire ne relèvent pas le niveau de notre débat, parce que c'est un débat intéressant. Et on peut rester sur une ligne avec des objections de qualité. Là, c'est un peu mesquin, tout ceci. Et puis après, il y a des contre-vérités. Alors là, par contre, il faut mettre les pieds dans le plat et rétablir la vérité. La fin de l'intervention de Mme Bourdeux mettait en doute les chiffres, les pourcentages, etc., que j'avais mis en avant. Je reprends le passage de la fin de son intervention, où elle ironise sur l'augmentation de 20% des impôts et des taxes. Il semble, alors je reprends son texte, il semble que M. Marthe fasse volontairement ou pas la confusion entre l'augmentation du produit fiscal total et celle des taux de fiscalité. Alors je dirais que si quelqu'un a des problèmes avec les chiffres, je pense que c'est plutôt Mme Bourdeux que moi. Ça fait des années et des années que je travaille dans des budgets départementaux, naguère régionaux, naguère municipaux. Aujourd'hui, les chiffres dont j'ai fait état, la source, elle est officielle. C'est un document qui vient de la CCPL. C'est un document qui est issu, le tableau que je vous ai remis, qui est issu du dernier débat d'orientation budgétaire de la CCPL. Et je vous avais dit, lors de la dernière rencontre, les éléments essentiels pour juger et jauger les questions budgétaires, il faut d'abord aller regarder du côté des recettes. Les recettes principales, ce sont les impôts et les taxes. Et ensuite, regarder dans les dépenses, quelles sont les lignes qui bougent beaucoup. Et là, c'était la masse salariale. Et enfin, le dernier élément, parce que ce que l'on ne met pas dans les impôts, on le met dans l'emprunt. On augmente la dette. Je vous avais mis aussi le rappel de la situation de la dette. Avec trois ou quatre éléments de cette nature-là, on sait lire un budget. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Et qu'est-ce que j'ai dit, moi, lors de notre dernière rencontre, ce qui prouve l'inanité du propos de Mme Bourdeux, je reprends, vous voyez, j'avais surligné dans les recettes, parce qu'avant de dépenser, il faut regarder les recettes. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le cartouche du bas, recettes de fonctionnement. J'avais mis une croix au feutre à gauche sur l'article 73, sur l'article 73 qui résume les impôts et les taxes. Les impôts et les taxes. Les impôts, c'est la fiscalité que les citoyens ont payée et vont payer. Et vous allez tout à fait à droite. Et j'avais mis en haut variation entre 2013 et 2015. Et vous voyez bien que le total des impôts et des taxes. Ça, c'est pas une prévision budgétaire, c'est sur les comptes administratifs. Vous allez savoir quel est le montant réel des impôts. Mais vous voyez qu'en 2013, les impôts et les taxes étaient de 11 836 000 et qu'en 2015, eh bien, ces impôts ils sont de 14 173 000. Et j'avais pris volontairement 2013 et 2015, parce que 2013, c'était à 100% une gestion des prédécesseurs, et en 2015, c'était à 100% une gestion de l'actuelle équipe à la présidence de la CCPL. L'année 2014 pouvant être considérée comme une année charnière, quand une transition d'une équipe à l'autre, les chiffres peuvent bouger dans un sens ou dans l'autre, mais là, on est plein pot, et dans une ancienne gestion et dans la nouvelle gestion. Et lorsque vous faites la soustraction, entre, c'est élémentaire, c'est un problème de certificat d'études, lorsque vous faites la soustraction, lorsque vous soustrayez à 14 173 au 1 836 000, eh bien vous constatez une augmentation des impôts et des taxes de 2 336 667 euros. Et quand vous traduisez ça en augmentation, eh bien ça fait 20% d'augmentation des prélèvements au niveau des taxes et des impôts. Voilà. Alors je redis, je répète, il semblerait que ce soit plutôt Mme Bourdeau ou les gens qui l'entourent qui ont des problèmes avec les chiffres plutôt que votre serviteur. Parce que là, c'est irréfutable, c'est arithmétique. Donc j'y revenais parce que c'était quand même important. On ne peut pas dire n'importe quoi parce que ça, c'est tout à fait une polémique de bas étage, quoi, que de contester les chiffres qui, eux, sont objectifs.
Parce que tu avais été très clair. Tu n'avais pas dit que c'était le taux qui allait augmenter de 20%. Tu avais dit que c'était les recettes fiscales qui allaient augmenter de 20%.
Absolument. Donc les choses sont claires. Voilà. Donc c'est mis au point de l'avant-dernière conférence de presse. Et puis, abordant et traitant de ces questions fiscales, ça me permet de faire le lien, on reviendra sur d'autres aspects, hein. Ça me permet, puisque pour rester sur le terrain fiscal, ça me permet de faire le lien avec la dernière conférence de presse à laquelle vous avez été invité, tous les journalistes, une heure avant la tenue du conseil municipal. Et ensuite, alors je me suis astreint, bien sûr, je lis vos écrits, mais j'écoute les audios de Gérard Mériot, bien évidemment, et je me suis astreint, et ce n'était pas une partie de plaisir particulière, je me suis astreint à écouter les audios de cette séance du conseil municipal, et notamment la très longue intervention de M. Capel. M. Capel est parti de très loin, il est parti du contexte international, puis il est passé au contexte hexagonal, et puis il a atterri sur le contexte de Lourdes. Bon, alors je dirais, si j'étais un prof qui corrige son travail, je dirais que les deux tiers, il a été intervenu plus d'une heure, et je dirais que pendant les deux tiers de son intervention, il était hors sujet. Parce que, certes, ça peut être très intéressant de parler des contextes. Il y a des lieux communs. On sait ce qui se passe dans le monde, on sait ce qui se passe dans l'Hexagone. Était-il utile d'asséner et d'assommer un conseil municipal en reprenant des choses que tout le monde connaît? Bon. Il a commencé par le contexte international. Alors là, on a eu droit à tout. On a été voir ce qui se passait au niveau de l'économie chinoise, si elle était en bonne ou médiocre santé. On a été en Russie, on a été au Brésil, on a parlé du terrorisme, on a parlé de la crise agricole, on a parlé pendant des minutes et des minutes et des minutes pour évoquer, on a parlé de Davos, de M. Valls, etc. On a parlé du Brexit, de la sortie éventuelle de l'Angleterre, de l'Union européenne. On a parlé de tout. Il y a une seule chose dont je n'ai pas entendu parler, on n'a pas parlé des Inuits. Des Inuits, vous savez, qui peuvent avoir des problèmes avec la fonte des glaces dans ces peuples-là du nord de l'Europe. Il n'a pas parlé des Inuits. Mais à part les Inuits et les problèmes qui résultent de la fonte des glaces, il a parlé de tout. Mais de tout. Mais il ne nous a rien appris. On sait tout ça. Qu'est-ce que venait faire dans un débat d'orientation budgétaire une telle litanie de lieux communs sur les choses que tout le monde connaît? Ça, c'était le premier contexte planétaire. Bon, après avoir fait le tour de la Terre, on est revenu quand même, au niveau de l'Hexagone, on a atterri. On a fait le tour de la Terre, on est revenu dans l'Hexagone. Et là, eh bien, le militant socialiste est apparu dans sa splendeur telle qu'il est, puisque c'est tout à fait ahurissant ce que j'ai entendu. Monsieur Capel, au niveau de l'Hexagone, eh bien, observait un certain nombre d'orientations positives dans la politique de Monsieur Hollande, parce qu'il a souvent cité le président de la République et le Premier ministre, ce qui prouve bien la croche idéologique et politique qu'il a sienne. Il a le droit d'être socialiste, Monsieur Capel. C'est pas ce droit que nous lui contestons. C'est le fait de balancer des contre-vérités. Chacun connaît la situation dans notre pays. Les impôts n'ont cessé d'augmenter. La dette n'a cessé d'augmenter. Et là aussi, faire toujours référence au passé, ça ne fait pas avancer le chemin public. Bien sûr que ça avait progressé du temps de Sarkozy, mais ça a continué de progresser énormément avec monsieur Hollande. Donc, rappelez tout ça, et surtout, l'un des engagements principaux du candidat Hollande. Moi, j'ai comme l'un de mes livres de chevet, c'est les 60 engagements. Je l'ai toujours sous le bras, ce document. Les engagements du candidat François Hollande, je les amène toujours au Conseil général parce que des fois, ça m'intéresse de ressortir tel engagement du candidat et où en sommes-nous. Alors, où en sommes-nous au niveau de la fameuse inversion du chômage ? Où en sommes-nous de la fameuse inversion du chômage ? Et alors là, si je dis ça, c'est parce que M. Capel, pour des raisons professionnelles, il sait bien ce qui se passe dans le domaine de l'évolution du chômage. C'est son métier. Il a un poste d'observation extraordinaire. Et la situation du chômage dans notre département, elle est plus importante que la moyenne du chômage dans la région, elle est plus importante que la moyenne du chômage au niveau national. Bon. C'est inimaginable qu'une personne de cette qualité, au poste qu'il occupe, puisse tenir les propos lignifiants qu'il a tenus. Tout va bien, si j'en crois ce qu'a dit M. Capel au niveau, après avoir brossé ce vaste tableau de la planète, lorsqu'il a parlé de l'Hexagone, c'était tout à fait décalé. Son propos était tout à fait décalé et incompréhensible quand on a tous les éléments qu'il a à sa disposition pour tenir ce propos. C'était plus un acte de foi dans le futur qui est devant nous, mais qu'il n'y aura pas d'inversion significative, dans tous les cas, on le sait bien les uns les autres, du chômage, qui est l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés avant la fin du mandat de M. Hollande. Voilà donc les deux contextes. Et puis après deux tiers de son temps, gaspillé, entre guillemets, où ça a dû être la lassitude de beaucoup, entendre tous ces propos, on est enfin arrivé dans ce qui nous intéresse dans un débat d'orientation budgétaire, c'est à savoir qu'est-ce qui va se passer pour nous lourder. On le sait bien ce qui se passe ici ou là, au Brésil ou en Chine ou ailleurs, mais ce qui nous intéresse à nous d'abord, c'est de savoir ce qui va se passer, à quelle sauce budgétaire et financière allons-nous être croqués, nous les contribuables de Lourdes et de la CCPL. Alors là, ma stupéfaction a été totale. Ma stupéfaction a été totale quand je vois que, eh bien, on annonce une baisse des impôts. Mais une baisse des impôts, vous entendez bien, une baisse des impôts. Alors que Lourdes est déjà dans le réseau, a été inscrit dans le réseau des communes en péril budgétaire et financier, qui est juste avant, je le disais la dernière fois, juste avant la mise sous tutelle de la commune. Alors on nous dit depuis des mois et des mois que la situation est catastrophique. Et là encore, on revient toujours sur l'héritage. Madame Bourde n'arrête pas de revenir sur l'héritage. Monsieur Capel, dans son propos, je l'ai entendu de mes oreilles, il revient sur l'héritage. C'est le leitmotiv d'une équipe municipale qui est en place depuis 2 ans, depuis un tiers du mandat. Et je redis ce que j'ai dit la dernière fois, on ne peut pas éternellement faire référence à l'héritage. Vous savez, dans le domaine public, c'est comme dans le domaine privé. Un héritage, on peut ne pas l'assumer. Vous avez peut-être été confronté des fois dans vos familles à ce cas de figure. On peut ne pas vouloir assumer un héritage. Mais alors, c'est très simple. Il suffisait de ne pas être candidat aux élections municipales. Parce que lorsque l'on est candidat, lorsque l'on aspire à devenir maire de Lourdes, d'autant qu'il s'agissait d'une personne qui avait une vie municipale depuis plus de 20 ans, eh bien, Mme Bourdeau connaissait la situation, elle savait les évolutions, elle savait quelle était la nature de l'héritage. Elle a voulu l'assumer puisqu'elle était candidate. Quand elle a fait acte de candidature en tant que maire, c'est qu'elle acceptait par avance d'assumer l'héritage du passé. Sinon, quand on ne veut pas assumer l'héritage du passé, on n'est pas candidat. Alors, il faut dégonfler un peu cette baudruche et arrêter une fois pour toutes. On est au tiers du mandat. Madame Bourdeau savait quelle était la nature de ses héritages. Elle l'a voulu l'assumer en étant candidate. Elle est maire aujourd'hui. Elle doit donc assumer cet héritage. Et puis, n'en parlons plus. On ne va pas continuer à s'objecter constamment l'héritage. Alors, ce qui est stupéfiant, c'est qu'après avoir dit qu'effectivement, il y a des éléments objectifs qui sont inquiétants. Quand dans une collectivité, l'épargne nette a disparu, mais il y a épargne nette zéro. Ça veut dire, par exemple, je reviens juste un petit retour en arrière, tous les investissements qui vont être faits en 2016, eh bien, ils ne peuvent être financés que par l'emprunt. Il n'y aura donc de travaux en 2016 à la ville de Lourdes qu'au au niveau du montant des emprunts, puisqu'il n'y a pas d'épargne. Il faut emprunter. Et c'est pour cela que je vous disais, il y a une fiscalité directe, c'est l'augmentation des impôts, Et puis, il y a une fiscalité décalée, déplacée, qui est l'emprunt. Alors, l'emprunt, on empruntera 7 millions peut-être, ou 8 millions, on verra lors du vote du budget pour l'exercice 2016. Alors, la douloureuse n'apparaîtra pas immédiatement dans l'augmentation des impôts, mais dans un an ou dans deux ans, il faudra rembourser le capital et les intérêts. Donc, il y a la fiscalité directe et la fiscalité différée. Et la dette n'est qu'une façon de maquiller dans l'immédiat, ce qu'on veut pas finir, pour éviter une explosion extraordinaire, cataclysmique des impôts, on refile le bébé sur la dette, mais on est rattrapé l'année après. Alors, il y a ça d'abord, et puis, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on puisse parler de baisse des impôts, à Lourdes. Moi, j'invite on verra ce qui résultera du vote du budget. Mais il convient de rappeler qu'on est dans un contexte de vase communicant entre la ville de Lourdes et la communauté de communes du pays de Lourdes. Et le débat d'orientation budgétaire de la CCPL est très inquiétant au niveau des contribuables. Parce que, je vous dis, c'est un système de vase communicant. Et lorsque les budgets de la ville de Lourdes et de la CCPL, les budgets primitifs de 2016, auront été votés, eh bien, nous nous retrouverons assurément ici, vous et nous, pour parler du résultat final. Et là, nous, et par avance, j'attire aux contribuables, aux électeurs contribuables, de regarder leur feuille d'impôt, leur feuille d'impôt locale. Et il faudra faire à ce moment-là le total des deux colonnes. Vous aurez la colonne commune de Lourdes, la colonne intercommunalité. Il faudra faire le total et aller en bas à droite, voir le montant des impôts qu'ils payent et comparer ça avec les impôts de l'année précédente ou de l'année avant, depuis le début du mandat de Mme Bourdaloue. Voilà la réalité. Comment peut-on avoir l'estomac d'annoncer une baisse des impôts quand on sait les difficultés de la ville et les difficultés de la CCPL? Voilà, alors là, le rendez-vous après, nous aurons rendez-vous les uns et les autres après le vote des budgets.
Et d'ailleurs, dans la conférence de presse de Mme Bourdeux, elle avait d'ailleurs dit que Lourdes, c'était Lourdes, que la communauté des communes, c'était la communauté des communes, elle faisait le distinguo entre les deux. Sauf qu'elle a bien précisé qu'elle augmenterait les impôts de la communauté des communes, que nous serons toujours obligés d'augmenter les impôts. Ça, c'est à mettre entre guillemets, parce que ce sont ces propos qui ont été recueillis dans la conférence de presse sur l'audio. Voilà. Et c'est vrai que c'est surprenant de lire cette baisse des impôts. Moi, au niveau des clients, des gens que je rencontre, tout le monde est stupéfait. Et personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris que les patates chaudes, elles partent régulièrement sur la communauté des communes et sont réparties ensuite, et sur Lourdes, bien évidemment, mais aussi sur toutes les petites communes. Chacun se demande comment ils vont être mangés, ce que ça va leur coûter. Au-delà des mots, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, il y a des familles, il y a des gens, il y a des chômeurs, il y a des humains. Et les humains, en ce moment, on est dans un contexte économique plus que grave sur Lourdes, puisque au niveau des saisonniers, j'en rencontre beaucoup qui sont dans l'attente, ils ne savent même pas s'ils vont reprendre le travail. Et quand ils entendent en plus qu'on va baisser les impôts à Lourdes, mais en ayant derrière l'oreille que quand même derrière, il y a la communauté des communes qui va fatalement rehausser ses impôts, et d'ailleurs elle le dit elle-même, ce sont ses propos que j'ai récupérés, ça paraît quand même un peu fou comme comportement. Il faudrait être clair.
Mais on pourrait passer la journée sur l'aspect fiscal. Il est fait état d'une taxe qui est un impôt payé par un public particulier, la taxe de séjour. La taxe de séjour, puisque on annonce que j'ai eu 2 millions d'euros de prévu, puisque la taxe est passée au réel, effectivement. Donc, quand même, une précision, c'est une recette aléatoire. Elle est aléatoire, parce que lorsque l'on sait que l'activité hôtelière de Lourdes est malheureusement sur une pente déclinante, eh bien, on n'est pas sûr du tout. S'il y a moins de touristes et de pèlerins qui viennent, il y aura moins de taxes qui résulteront de cette fréquentation. Donc, c'est, même ça, c'est bâti, toutes ces prévisions sont bâties sur du sable, parce qu'on n'est pas sûr du tout. C'est un vœu pieux de dire nous aurons 2 millions d'euros de taxes dessus. Personne ne peut dire aujourd'hui. Ça dépendra de la situation, la fréquentation de la ville de Lourdes. Voilà donc une précision au passage pour dire qu'on est vraiment dans un domaine tout à fait extravagant dans les commentaires que j'ai entendus au travers de ce débat d'orientation budgétaire.